Bon, vous me voyez toujours. L'important, c'est de m'entendre, de toute façon. Ouais. Alors, je vous salue tous, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous serrer la patte à chacun. C'est toujours un plaisir de vous voir. Je viens comme substitut. Vous m'avez malgré vous. Mais ça me fait toujours plaisir. C'est un plaisir renouvelé de vous revoir. Sainte-Marie, c'est une longue histoire un peu dans ma petite vie, là, parce que j'en parlais avec Raymond ce matin en s'en venant. C'est un peu plus de 30 ans que je viens ici. Je devais être pré-ado quand j'ai commencé à venir, probablement. Non, mais j'ai commencé en 89, c'est plus que 30, hein? 34 ans? Ouais. 36? Faut que je retourne à l'école. Mes maths en ont pris un peu pour. Mais c'est quand même toujours un plaisir renouvelé. Puis, on voit la fidélité du Seigneur quand je regarde certains visages ici ce matin. Il y en a qui étaient là il y a 34 ans. Ouais. Donc, gloire à Dieu. Hein? Le Seigneur est bon. Ce matin, on va revenir aux sources, des choses que vous savez tous, mais c'est quand même important qu'on se renouvelle des choses que nous savons. On va parler de la valeur inestimable de la parole de Dieu, de la Bible, sa grande, grande valeur, la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, on va lire deux passages, Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Chaque jour. Et un dernier passage, 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Passage très bien connu aussi. On va lire 14 à 17. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. » Alors, c'est Paul qui s'adresse à son compagnon d'œuvre, Timothée. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, toute ou toute l'écriture est inspirée de Dieu. » Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs, qu'elle puisse continuer de travailler nos vies et de nous transformer à l'image du Seigneur. Donc, la valeur inestimable de la Bible. J'ai une question. Qu'est-ce qu'on peut penser de deux conjoints dont l'un parle à l'autre, mais quand l'autre parle, il n'écoute pas? Je ne sais pas si ça arrive dans les couples. Je n'ai pas assez d'expérience pour vous dire ça. Il faut que je vous questionne en particulier après. Un qui parle, puis l'autre n'écoute pas. Un monologue au lieu d'un dialogue. Est-ce que ça arrive? Vous connaissez le petit principe? On a deux oreilles et une bouche. On devrait écouter deux fois plus qu'on parle. Hein? L'écoute aujourd'hui, c'est devenu une monnaie plus rare. Hein? Écouter. Écouter davantage que parler. Devenir chrétien, c'est le début d'une relation personnelle avec Dieu. On sait tout ça. Et dans cette relation personnelle, on a le privilège de prier Dieu, de lui parler, mais aussi de l'écouter nous parler. Comment? par les Saintes Écritures, par la parole de Dieu. Vous vous rappelez peut-être le jeune Samuel au début de son ministère, il est encore très jeune, il était près avec le sacrificateur Élie. Et les premiers temps que le Seigneur lui a parlé, il a répondu « Parle, car ton serviteur écoute, écoute ». Je lis dans Ésaïe 50, verset 4, c'est pas nécessaire d'y tourner, c'est écrit « Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute. » Comme écoute des disciples, pour que j'écoute, comme écoute des disciples. Oui, écoutez. Alors, quel est mon taux? Ça, c'est une bonne question, ça. Quel est mon taux d'appréciation de la parole de Dieu? À quel point j'apprécie la Bible? La Bible qu'on a entre nos mains, ce trésor de littérature. Encore ici, le psalmiste au psaume 119, verset 72, je vous le cite simplement. Son taux d'appréciation est assez élevé. Il a dit ceci. « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche, ta parole, que 1000 objets d'or et d'argent. » Oui, monsieur. Hein? Il attribuait un prix très élevé à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. « Que 1000 objets d'or et d'argent. » Le Seigneur dira, hein, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole » qui sort de la bouche de Dieu. C'est notre vie, en quelque sorte. C'est notre... On a toutes les règles de la vie là-dessus. Alors, le message de ce matin, c'est pas compliqué. On retourne à l'ABC de la vie chrétienne. On retourne à la base. On retourne au salage, hein, au footing. Puis, je dirais que ce dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est la face cachée de notre vie chrétienne. Parce que c'est assez rare que quand un chrétien lit la Bible, qu'il va sortir dans la rue, puis qu'il est sur le trottoir, puis il lit sa Bible. On ne veut pas ça souvent. C'est plutôt discret, c'est chez nous, à la maison, dans le secret. Mais voilà, c'est la face cachée de notre vie chrétienne, de notre relation avec Dieu. Et puis ce matin, ça se veut aussi un hommage à la parole de Dieu que j'aimerais prononcer, souligner l'importance de sa parole, la place qu'elle doit occuper dans ma vie, dans votre vie. C'est notre guide de vie, la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on entend à la radio ou sur Internet ou ailleurs, comment vivre, mais avant tout, c'est ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder trois choses. Premièrement, la présentation. Présenter la parole, c'est quoi la Bible? Ensuite, l'appréciation qu'on doit en avoir, l'appréciation par différents témoignages qui ont été prononcés au sujet de la Bible. Et troisièmement, pour terminer, la dévotion envers la parole de Dieu, c'est-à-dire la ferveur, l'attachement que nous devrions y vouer à cette parole. La présentation, bien, la Bible, c'est un document littéraire d'une richesse et d'une importance capitale. Un document littéraire d'une riche, unique, oui, j'appuie là-dessus, unique, d'une importance capitale, d'une grande richesse. La Bible fait partie de la révélation spéciale de Dieu. Il y a la révélation générale de Dieu. La révélation générale, sortez dehors, vous la voyez. C'est la création, tout ce qui existe autour de nous. Elle nous parle déjà de Dieu, hein? Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste de l'œuvre de ses mains. Mais la Bible, c'est la révélation spéciale, c'est que Dieu... Il y a trois mots qui résument la Bible. Trois mots. Dieu a parlé. Dieu a parlé. C'est merveilleux. Il n'est pas demeuré dans le silence. La Bible nous amène en présence des pensées que Dieu a exprimées. Les pensées que Dieu a exprimées. Et, dans un sens, la Bible, c'est un émerveillement. Pourquoi je dis ça? Quelqu'un a dit que le temps qu'on occupe, là, le temps, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité. Êtes-vous déjà arrêté à ça? Le temps nous paraît long, hein? Mais c'est pas si long que ça. C'est une toute petite période que Dieu a créée dans l'éternité. Puis à cet égard, la Bible est digne de toute notre admiration. J.N. Darby, celui qui a écrit la Bible, qui a traduit la Bible, il a dit ceci. La Bible est cette divine parenthèse ouverte entre l'éternité passée et l'éternité à venir. C'est vrai. En fin de compte, le temps qui nous occupe, c'est que Dieu nous a parlé pendant cette période de temps. On ne sait pas quand le temps va se terminer, mais on sait que ça va se terminer. On va balancer dans l'éternité un jour. Ça va être fini pour le temps. En fait, le Seigneur a ouvert cette parenthèse en créant le temps, la matière, l'espace. Et il nous a tout décrit, il nous a tout expliqué par sa parole, du début du temps et à la fin des temps, ça va arriver un jour. Vous comprenez? Tout a été placé par écrit de tout ce qui va se passer dans le monde. On a ce privilège extraordinaire en tant que chrétien de savoir ce qui va se passer. On ne veut pas jouer les petits jeux connaissants. Ça ne vient pas de nous. Dieu nous le révèle. Dieu nous le révèle. Alors donc, la présentation rapide de la Bible, je dirais ça de cette façon ici. Maintenant, on parle aussi, la Bible nous parle de diversité et d'unité. Dieu a choisi une quarantaine d'auteurs pour écrire la Bible. Il y a à peu près 40 personnes qui ont contribué à écrire les Saintes Écritures. Puis chacun, c'est ça qui est tout à fait merveilleux, chacun différait par leur niveau d'instruction, leur position sociale. Ça a été rédigé sur une période de 1500 ans, 15 siècles que ça a pris pour écrire toute la Bible. Mais vous savez, malgré toute cette diversité d'auteurs, bien, ces 66 livres peuvent être comparés aux 66 maillons d'une même chaîne. Vous lisez la Bible, puis chaque auteur nous parle des mêmes choses. Puis nous, qui ont vécu à différentes époques, une grande majorité sont même pas connus, là. Ils n'ont pas vécu à la même époque. Donc, elle présente une unité, une harmonie remarquable, la Bible. Puis je vous dis une chose, là. Plus on la lit, plus on le réalise. Ça fait quelques années que je lis la Bible. Un petit peu plus qu'un 50 ans. Je commence, là. Un petit peu plus. Plus on le réalise, son unité, tout se tient ensemble. Alors Dieu, il a souverainement conduit les écrivains sacrés pour qu'ils communiquent exactement sa pensée, la pensée de Dieu. On l'a lu tantôt dans 2 Timothée 3,16, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, toute, de la Genèse à l'Apocalypse. On le voit que ça vient de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21, je vous le cite ici, je vous le lis. « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Poussé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Et quel est l'objet de la Bible? Quel est son but? Pourquoi Dieu le fait écrire, sa parole? Bien, son but essentiel, puis là, on a la clé ici pour comprendre les Écritures. La clé pour comprendre les Écritures, c'est la personne de Christ. Il est partout dans la Bible. Il est la clé pour la compréhension des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Tout converge vers lui, le Seigneur. Le message éternel, le salut éternel que Christ offre à l'homme, c'est le fil conducteur de toutes les Écritures. Déjà dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15, tout de suite, il y a le pot évangile qui est annoncé là. Déjà dans Genèse 3, 15, vous avez déjà une idée, Dieu annonce, même il parle à Satan dans ce verset 15, il lui dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. » Donc, c'est Satan qui va avoir son compte. Ses carottes vont être cuites un jour. Puis le Seigneur l'a annoncé. Il annonce la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. Il est né d'une femme, né sous la loi. Épître aux Galates. Genèse 3,15 déjà. Et tout se poursuit par des prophéties dans les psaumes partout, des messages, des psaumes messianiques, etc. Tout converge vers la personne du Seigneur. Si on veut vraiment comprendre les Écritures, il ne faut pas perdre de vue la personne de Christ. Brièvement aussi, son actualité, son universalité. On a dit avec raison que la Bible est vieille, mais elle n'a pas vieilli. C'est la grande différence. Elle n'a pas vieilli. Elle est actuelle. Elle traite des événements du passé, oui, du présent, mais de l'avenir aussi. Quelqu'un a dit que la Bible est en avance du journal demain matin. Pourquoi pas? Sûrement. La Bible s'adresse aux hommes de tous les temps. Elle est avant tout, bien sûr, qu'elle est avant tout la révélation du seul vrai Dieu. On veut connaître Dieu. On a le livre pour... On a tout ici devant nous. Tout ce qu'il faut. Un dernier point avant de passer au deuxième. La Bible, si elle est actuelle, elle est aussi universelle. Elle révèle le problème fondamental de l'homme, de toutes les époques, de toutes les cultures, sous tous les cieux. Son problème fondamental, fondamental, elle dépeint la situation de l'homme, son éloignement de Dieu suite au péché de nos premiers parents, la désobéissance, et tout ça a entraîné l'humanité entière à son tour dans le péché. Dans le péché, dans la misère, dans la souffrance. Donc, il ne faut pas se poser la question jusqu'à demain pour savoir pourquoi ça va mal dans le monde. C'est à cause du péché. C'est parce qu'on s'est éloigné de Dieu. Mais ça va aller de mal en pis, hein, pour aboutir finalement par la destruction de la terre et la création des nouveaux cieux, nouvelles terres. L'Apocalypse le décrit très bien la chose. Alors donc, actualité, université, universalité, pardon, il va falloir que je suive des cours d'addiction. Hein. S'il y a un professeur dans la salle, je vais aller vous parler après. Vous aurez besoin de conseils. Alors donc, la Bible, en fin de compte, nous révèle, oui, elle donne la raison pour laquelle ça va mal dans le monde, mais elle nous révèle aussi la solution divine, la solution absolue au problème du péché, c'est l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus. Puis, ses effets n'ont aucune limite dans le temps ou dans l'espace. Et ça nous amène à Jean 3,16, que vous connaissez probablement tous par cœur. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà quelques mots pour présenter la parole de Dieu. Maintenant, son appréciation. En d'autres mots ici, son appréciation, qu'est-ce qui a été fait à son sujet et qu'est-ce qui a été dit? Ce qui a été dit, il y a beaucoup de témoignages, on pourrait en citer jusqu'à ce soir, là. Mais je vous fais grâce. Mais il y a quand même des personnes qui ont exprimé la valeur qu'ils attribuent à la Bible. Quelqu'un a dit, « Je crois que la Bible est le plus grand don que Dieu a fait aux hommes. » Qui a écrit ça? Abraham Lincoln, un des présidents des États-Unis bien connu, mort assassiné. « Je crois que la Bible est le plus grand don que Dieu a fait aux hommes. » Quelqu'un d'autre a dit ceci, « Que représenterait pour vous un autographe ou une lettre personnelle de la part de celui qui est la plus grande célébrité à vos yeux. Quelqu'un pour qui vous avez la plus grande admiration. » Eh bien, l'auteur dit ceci, « La Bible, c'est l'autographe de Dieu. Une lettre d'amour venant du ciel, écrite pour chaque personne en particulier et à l'humanité à la fois. » Auteur inconnu, je regrette, je n'ai pas son nom. Mais c'est tellement vrai ce qu'il dit là. Tellement vrai. La Bible est l'autographe de Dieu, une lettre d'amour venant du ciel, écrite pour chaque personne en particulier et à l'humanité à la fois. Un autre témoignage, Georges Müller, il est connu, lui, 18e siècle, oui, 19e, pardon. Dans les années 1800, ça a été un homme de Dieu remarquable avec une foi extraordinaire pour ceux qui ont lu sur lui. Il a fondé des orphelinats en Angleterre, des enfants là, qui étaient tellement mal pris. Il a dit ceci, « La vigueur de notre vie spirituelle sera toujours en proportion avec la place que tient la Bible dans nos pensées et dans nos actes. » Je le répète, « La vigueur de notre vie spirituelle sera toujours en proportion exacte avec la place que tient la Bible dans nos pensées et dans nos actes. » J'ai lu la Bible une centaine de fois avec toujours le même émerveillement. Elle m'apparaît chaque fois comme un livre nouveau. J'ai reçu de grandes bénédictions par son étude régulière et assidue. Il ajoute, « Pour moi, une journée sans un moment d'étude de la parole, c'est une journée perdue. » George Müller. Un dernier, Martin Luther, moine, il était un moine catholique de la congrégation des Augustins, d'origine allemande. Il a vécu au 16e siècle, 1550 autour. Cet homme s'est converti à Dieu en lisant l'Épître aux Romains et l'Épître aux Galates et devint ce grand réformateur bien connu. Il a prêché contre les traditions religieuses pour se concentrer sur la Bible seule, sola scriptura, seulement la Bible. Donc, Martin Luther. Je termine cette section en parlant juste de quelques mentions de la distribution de la Bible dans le monde. Selon le rapport du livre Guinness, 15 mars 2022, désolé, je ne suis pas à date, mais ce n'est pas si loin, 2022. On lit ceci. En 2021, le nombre de Bibles vendues dans le monde a dépassé 100 millions d'exemplaires. Pas des Bibles données, des Bibles vendues. 100 millions d'exemplaires. Et il mentionne que c'est loin devant les best-sellers mondiaux, devant les livres les plus populaires. Ça dépasse tout. J'ai encore une statistique encore plus vieille. Vous allez me dire, bien, il est vieux, ça donne bien. En 2019, au niveau mondial, les Gédéons ont distribué 2,2 milliards d'exemplaires de la Bible, et ce, dans 190 pays. Alors, je pense que ce n'est pas tellement difficile de trouver une Bible. C'est du travail, mais c'est vraiment... C'est impressionnant. Alors, donc, voilà pour cette partie de comment la Bible est appréciée, devrait être appréciée. Et le dernier point ce matin, c'est la dévotion. La dévotion, c'est-à-dire la ferveur, l'attachement que nous devrions vouer à la parole de Dieu. Le désir de la lire, le désir de la méditer quotidiennement et l'appliquer dans nos vies. Le problème de notre époque, j'ai lu quelque part que les 70 dernières années, il y a eu une diminution progressive de lire. Une diminution progressive de lire. Il y a un petit proverbe qui se dit que lire, c'est grandir. Alors, regardez-moi pas de même. C'est au deuxième degré. Donc, au cas où, hein, qu'il y ait confusion. Une vie sans lecture est une vie sans culture. Peut-être que vous avez déjà entendu ça aussi. Et il y a un autre petit proverbe qui dit ceci. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étend. Je connais des personnes qui vraiment n'ont pas de culture. Mais ils veulent tellement montrer qu'ils en ont. Ils nous sortent cette petite phrase par-ci, par-là. Mais ça saute aux yeux, là. C'est risible. Mais c'est vrai, c'est le principe de la confiture. Moins tu en as, plus tu l'étends. Bon, je ferme la parenthèse à cause des courants d'air. C'est quoi la cause de la baisse d'intérêt pour lire? C'est quoi la cause? Ce que j'ai lu aussi là-dessus, c'est la télévision. Ça a commencé avec la télévision. Puis les multiples plateformes numériques, bien sûr, qui s'ajoutent à ça, les écrans, les iPhones, les tablettes, tout ce que vous voulez. On le dit avec raison que la télévision n'a pas nui à la radio. Moi, je me rappelle, étant donné que je suis assez vieux maintenant, les années 50, quand la télévision a commencé, on disait, c'est fini pour la radio, on n'en aura plus, ça va être juste la télévision. Mais la radio, ça tourne encore aujourd'hui, en masse. Hein? Mais c'est le livre qui en a pris pour son rhume à cause de les écrans en général. Donc, tout ça, le résultat de tout ça, c'est une décroissance dramatique de la saine habitude de lire en général. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de Ralph Challis. Il a écrit un certain nombre de livres. Il est décédé depuis longtemps. J'ai assisté à des conférences qu'il a données, que je n'oublierai jamais de ma vie, dans les années 80. Il a répété à quelques fois dans ses conférences, il disait, « Les chrétiens ont 1000 Bibles, ils ne lisent pas. » C'est quand même pas hier, là, plus de 40 ans de ça. Puis, c'est plus vrai que jamais. On a dit ceci, que prier, c'est parler à Dieu. Lire la Bible, c'est Dieu qui me parle. On revient au début. Lire, écouter. Hein? 1 Pierre 2, versets 1 à 3, nous dit ceci. « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » On doit désirer. L'image est forte, hein, comme des enfants nouveau-nés. Je vois la famille de notre frère, notre sœur. Excuse-moi, j'ai oublié ton nom encore. C'est parce que je suis vieux. Sébastien. Et l'image que l'apôtre Pierre ici utilise, désirer lire les Écritures comme, désirer ça comme un enfant nouveau-né. On a eu 5 enfants chez nous, puis on a eu des jumeaux. Puis j'avais fait un test une fois. Je donnais le boire à un des deux. Puis je voulais vérifier si je tire la bouteille, je l'enlève pendant qu'il boit. Je l'ai fait. Et là, je l'ai vu venir quasiment en convulsion. J'ai remis ça tout de suite dans la bouche. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est parce que c'était une fille que j'avais dans les bras et qu'elle aimait plus le lait que le gars, mais non. Désirer comme un enfant nouveau-né, là, quand il a soif, là, tassez-vous de là. Hein? Ça presse pour le brancher. Les images qu'on trouve dans la Bible là, sont sa coche. Hein? C'est précis. Et je me dis, Seigneur, donne-moi la grâce de toujours désirer ta parole, désirer ta présence comme ça. Désirer comme un enfant nouveau-né. Donc, je disais que prier, c'est parler à Dieu. Lire la Bible, c'est Dieu qui me parle. Alors, comment puis-je désirer lire la Bible, la méditer? Comment puis-je entretenir ce désir en moi de me nourrir de la parole de Dieu? La première chose, c'est confesser tout péché connu au Seigneur et de m'en détourner, bien entendu. Pas juste le confesser, mais une confession réelle, c'est que je vais aussi m'en détourner. On a dit avec raison que le péché m'éloigne de la Bible m'éloigne du péché. C'est tout à fait juste. Puis, demander au Seigneur, avant d'ouvrir la Bible, lui demander d'ouvrir mon esprit, d'ouvrir mon intelligence pour que je la comprenne et de m'accorder la grâce d'obéir à ce que j'ai lu. Personnellement, je lis la Bible le matin. Et je formule toujours la même prière au Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole, ce trésor de sagesse et de connaissance. Je te prie que tu puisses ouvrir mon esprit à sa lecture, afin que je la comprenne et que je t'obéisse par ta grâce et pour ta gloire, en Jésus notre Seigneur. C'est une simple demande, ça peut être une prière encore plus courte. Hein? Lire, donc demander qu'il nous aide à comprendre, mais le lire avec foi aussi. Lire convaincu, que l'on puisse croire, qu'on puisse être convaincu que c'est Dieu qui me parle, que nous lisons sa parole. Je commence à me poser tout ça, à douter, c'est pas la foi ça. Mais croire que c'est Dieu qui me parle et lire la parole dans un esprit d'attente que je vais recevoir quelque chose. Encore là, il y a un beau verset au sujet de la foi dans Hébreux, Hébreux chapitre 11, que je vous cite, je vous lis. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, hein? élémentaire, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui va nous récompenser, qui va nous donner quelque chose. Je cherche sa présence et je désire apprendre de lui, comprendre et apprendre de lui. » Donc, lire avec cet esprit de foi qui est tellement important, tellement important. Comment la lire aussi? Bien sûr, quand vous commencez la lecture de n'importe quel livre, on commence au début, on s'en va à la suite jusqu'à la fin. On ne se met pas à jouer au kangourou, à sauter d'une place à l'autre, on lit à la suite. Bien, me semble que dans mon livre à moi, la Bible, c'est pareil. Une lecture suivie. Encore là, si je prends mon expérience personnelle, je lis pas plus que 10-15 versets le matin dans ma lecture suivie. Ma lecture, j'appelle ça ma lecture méditative. Hein? On choisit un endroit tranquille, à mesure du possible, mon frère. Avec une famille, c'est peut-être pas tout aussi évident. C'est important de lire notre texte 2-3 fois. L'effort de comprendre ce qu'on lit, de lire 2-3 fois, s'efforcer de comprendre ce qu'on lit, et puis, c'est pas défendu de consulter certains outils. Maintenant, vous avez des Bibles avec des notes explicatives au bas de page. Il y a Vie Nouvelle que vous devez connaître, une Bible, les notes, c'est plus du côté pratique, qui est très intéressant. MacArthur, avec ses notes, ses Bibles avec les notes, c'est plus, il va plus dans la théologie, ça dépend ce que vous recherchez. Et il y a d'autres, il y a 50 outils possibles, là. Puis, quand on lit la parole, c'est se poser des questions. Est-ce que j'ai un exemple à suivre ici? Est-ce que j'ai un ordre à obéir dans ce que je viens de lire? Est-ce que j'ai un péché à abandonner, une promesse à réclamer, une prière, est-ce que ça m'incite à prier sur un sujet précis? Est-ce que j'ai appris une vérité nouvelle sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit, sur moi-même? Et en même temps, ça c'est la lecture que j'appelle pour méditer. On se presse pas. C'est sûr que là, les gens qui travaillent, on ne peut pas prendre 2 heures, bien sûr, là. Mais 20 minutes, une demi-heure, c'est, je crois que ça peut être possible. Hein? Et pour ceux dont c'est possible aussi, faire une lecture rapide du Nouveau Testament dans un an, et idéalement, peut-être la Bible au complet dans un an. Ça, c'est une lecture séparément, là, carrément à autre chose. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est l'idéal. Un dernier point là-dessus, les bénédictions qui peuvent découler d'une lecture et d'une méditation de la parole. Il y a la crainte de Dieu que ça va se développer en nous. Il y a dans le livre des Rois, si je ne me trompe pas, oui, Deutéronome 17, versets 18 à 20, vous pourrez lire vous-même, je vais vous le citer. Ça nous parle du le roi d'Israël. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas des commandements de ses commandements, ni à droite, ni à gauche. Les bénédictions de la parole développent en nous la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est un désir encore plus grand de le connaître, une révérence envers lui, respect, encore grandir en humilité, dans l'obéissance. C'est tout, il y a toute une liste ici de vertus possibles. C'est la crainte de Dieu. C'est le servir avec joie, avec fidélité et s'attacher de plus en plus à lui. D'autres bénédictions, en terminant, c'est que de s'attacher à la parole de Dieu, la lire, la méditer, développe chez nous la patience, la consolation, l'espérance, de la stabilité, de l'assurance aussi, de la paix intérieure, la paix intérieure dans un monde troublé, on en a besoin. Et d'ailleurs, Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 15, 4, est-ce que je l'ai? Ah oui, je l'ai ici. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Elle nous apporte la consolation. Puis, on en a besoin aujourd'hui, hein, parce que les gens sont inquiets. Regardez les inconvertis, là, avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a 50 000 questions à se poser. On s'en va où, là? Bien, nous, les enfants de Dieu, on sait où on s'en va. Ça, c'est une assurance. Après les méditations, la parole, lecture, c'est sûr que je devrais ressentir le besoin de parler au Seigneur. On a parlé au début d'écouter et de parler. Après l'avoir écouté, le Seigneur, j'ai sûrement envie de lui parler. Donc, le prier, porter des requêtes, des actions de grâce. Et d'ailleurs, c'est ça. Après avoir médité la parole, on dit souvent que si je lis la Bible, la Bible va me nourrir puis m'inspirer pour la prière par la suite. Donc, on a les deux. On écoute, après, on parle au Seigneur. Conclusion. Est-ce que j'ai dépassé le temps, mon frère? Ouais. En conclusion de tout ça, bien, on a dit au départ que la vie chrétienne, c'est le début d'une relation personnelle avec Dieu. C'est ça, la vie chrétienne. Et qui dit relation, dit interaction. Faut pas que notre relation avec Dieu se résume juste à un monologue que je lui parle, mais comme on disait tantôt, un dialogue. On l'écoute et on lui parle. Et d'abord, si je l'écoute d'abord, je vais savoir quoi dire, lui parler après. Donc, je nous encourage ce matin qu'on se place à l'écoute de Dieu. Chaque jour, chaque jour. Puis pas une écoute passive, mais une écoute comme celle d'un disciple. Je crois que c'est dans Ésaïe qui dit ceci. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. » Si j'écoute comme un disciple, ça veut dire que je vais écouter puis je vais agir après. Ça, c'est l'écoute d'un disciple. Sinon, c'est une écoute passive. Que j'écoute comme écoute, oui, un disciple. Le Seigneur veut parler à notre cœur. Hein? Il veut nous instruire. Il veut nous rassurer. Il veut nous consoler. Rappelons-nous ce merveilleux passage de Luc 24, les disciples d'Emmaüs, quand ils rencontrent le Seigneur Jésus et qu'ils commencent, le Seigneur finalement se révèle, non, avant qu'il se révèle à eux, il les enseigne. Et je crois que j'ai le passage, oui, c'est écrit dans Luc 24, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et là, vous avez tout l'enseignement qu'il leur apporte. Et puis, à la fin, les deux disciples se regardent après avoir reconnu le Seigneur. Ils se disent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? » Lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures. Moi, je souhaite que votre cœur brûle qu'on puisse brûler dans sa présence à chaque jour en l'écoutant nous parler dans les Écritures. Vous savez, la parole de Dieu ne veut pas faire de nous des grosses têtes où on apprend un paquet de choses, puis on est une bibliothèque ambulante. Là. Non, la parole de Dieu ne veut pas faire de nous des grosses têtes, mais des cœurs qui brûlent pour le Seigneur, qui brûlent pour lui, pour l'obéir, puis trouver en lui notre joie, notre paix. Alors qu'on puisse chaque jour, puiser dans ce trésor qui est d'une valeur inestimable, qu'on puisse ressentir le besoin de notre rendez-vous avec Dieu. Ça aussi, un bébé normal, il va ressentir la soif, hein? Ça devrait être pareil pour nous. Dans un certain sens, restons donc des bébés. Hein? Des vrais bébés en forme, plein de santé, puis qu'on ressent cette soif de la présence de Dieu et de sa parole, de notre rendez-vous quotidien avec Dieu. Ici, je vous cite, puis je termine juste avec ça, puis je vais vous dire à la fin qui a écrit ça. La Bible sera ouverte au jour du jugement. Elle vous est offerte aujourd'hui. Si vous la lisez, elle vous éclairera. Si vous l'écoutez, elle vous guidera. Si vous la croyez, elle vous sauvera. Si vous la négligez, elle vous jugera. Jean-Paul Bernet. On va prier. Ô Seigneur notre Dieu, oui, on est revenu à la source ce matin, on est revenu à la base de notre vie, de notre relation avec toi, cette vie chrétienne. Et Seigneur, on a toujours ce danger d'une lassitude qui peut s'installer dans notre vie pour différentes raisons. Peut-être flirter avec le péché, et voilà, notre cœur se refroidit. Seigneur, que l'on puisse se tenir près de toi pour t'écouter chaque jour, se mettre à l'écoute de ta parole, et après que tu nous aies parlé, que notre cœur puisse brûler et qu'on puisse te prier, te répandre notre cœur devant toi pour te faire connaître nos besoins et aussi te dire à quel point nous t'apprécions. Seigneur, tu connais chacune de ces personnes dans cette salle ici aujourd'hui. S'il y en a qui ne sont pas encore sauvés, qu'ils réalisent leurs besoins de toi, qu'ils réalisent leurs péchés, mais que toi, tu pardonnes le péché en vertu du sang versé de ton Fils à la croix. Et pour nous qui te connaissons, que notre désir de toi, que notre amour envers toi puisse toujours grandir et que notre rendez-vous en ta présence, jour après jour, soit de plus en plus désirable. Et que nous puissions vivre pour ta gloire jusqu'à ton retour prochain. En Jésus, notre Seigneur, nous te prions. Amen.